La proposition commerciale est une étape cruciale de la vente. C'est même l'élément tangible qui va cristalliser une offre vis-à-vis d'un prospect ou d'un client. Avec cette proposition commerciale, on indique clairement que l'on est en train de faire une offre à un client potentiel. Mais attention, les choses ne sont pas si faciles. Envoyer une proposition n'est pas neutre et ne se fait pas n'importe comment. Dominique Seguin, de Questio, est venu nous rendre visite afin de nous gratifier de ses précieux conseils sur ce sujet.
Vous écoutez bien les podcasts de Sparklane sur le blog Sales and Marketing Insiders, le blog d'information sur la vente en B2B.
Bonjour, je suis Yann Gourbennec et aujourd'hui, dans les podcasts de Sales and Marketing Insiders, nous allons traiter des bonnes pratiques pour réussir sa proposition commerciale avec Dominique Seguin, directeur général de Questio. La proposition commerciale est une des pierres angulaires de la vente. J'ai des souvenirs émus de mes débuts dans le commerce, dans une petite société de conseil, au temps où les assistantes commerciales voyaient venir leurs derniers jours de règne absolu. Il m'a fallu une seule tentative pour me débarrasser rapidement de ces propositions tapées à la machine et jeter mon dévolu sur un ordinateur personnel, une rareté à l'époque, qui me permettait d'échapper à ces horribles propositions copiées-collées où une secrétaire glorifiée cachait maladroitement le nom de l'ancien client avec du Tippex pour taper par-dessus le nom du nouveau. Inutile de dire que cela ne trompait pas grand monde. Imaginez donc les gains de productivité commerciale réalisés depuis ces temps, finalement pas très anciens, où l'ordinateur était un outil pour privilégier. Désormais, 3-4 coups de souris sur une proposition existante et à moins d'être irrémédiablement maladroit, le client suivant ne verra jamais que vous vous êtes servi de la base d'une autre proposition. Sauf que les choses ne sont pas aussi faciles ni aussi miraculeuses. Certes, la généralisation du traitement de texte de la mi-temps des années 80 au début des années 90 a permis des gains de productivité substantiels, sans parler de la distribution systématique d'ordinateurs portables aux commerciaux et aux consultants vers le début des années 2000. Mais les règles à suivre pour réussir sa proposition commerciale ne se résument pas à l'achat d'une licence Microsoft 365. Cela serait trop facile. D'une certaine manière, on pourrait également se demander si la puissance de nos outils d'aujourd'hui ne nous rend pas moins vigilants quant aux soins à apporter à ce précieux document. Pour faire le tour des choses à faire et ne pas faire au sujet de la proposition commerciale, j'ai convié Dominique Seguin de Questio à un échange libre et enregistré et consigné dans la chaîne des podcasts de Sales and Marketing Insiders. Comme à son habitude, Dominique nous a distillé ses conseils de bon sens pour améliorer la performance de nos propositions commerciales et les rendre plus efficaces. Je suis avec Dominique Seguin de Questio. Bonjour Dominique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la proposition commerciale. Oula, c'est un gros sujet, ça, la proposition commerciale. Et d'ailleurs, pour commencer, on va parler de la condition pour remettre une proposition, parce que finalement, c'est peut-être pas quelque chose qu'on fait systématiquement.
Effectivement, le principe est de se dire qu'on pourrait remettre une proposition à tous les clients qu'on rencontre. Au moment où on dit ça, on se rend bien compte que ce serait un peu paradoxal. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'acheter ce qu'on vient lui vendre. Et donc, on a besoin d'identifier les critères qui vont nous permettre de savoir quand remettre une proposition. Premier critère auquel on pourrait penser, c'est déjà, est-ce que le client a un problème à résoudre ? Et deuxième élément, est-ce qu'il a envie de le résoudre ? Ça, c'est déjà deux points évidents pour pouvoir savoir si on remet une proposition. Ensuite, on va avoir un élément important qui va être le sujet des personnes impliquées dans la prise de décision. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème et est-ce que tout le monde est également d'accord pour décider de résoudre ce problème ou se procurer un avantage ou en tout cas améliorer un existant. On voit bien déjà que là, il y a un peu moins de monde qui s'aligne entre la fameuse découverte, la qualification et puis la nécessité pour que toutes les personnes impliquées dans une décision que ce soit une vente un peu transactionnelle ou une vente plus complexe, avec plus d'interlocuteurs, on voit que ça, déjà, ça va filtrer pas mal de personnes. Puis ensuite, on peut avoir un sujet d'urgence, de timing, à quel moment le client veut-il voir les effets de la solution dans son entreprise. Donc on a une troisième condition qui va être le timing, et puis la dernière condition, c'est le sujet budgétaire. Et c'est vrai que c'est, si on prend le sujet du timing et du budget, souvent c'est des éléments qui inquiètent un peu le commercial, qui se demande est-ce que le client va avoir assez d'argent, quand est-ce qu'il va pouvoir prendre sa décision, parce qu'il relie ça à son quarter, à ses commissions. La réalité, c'est que notamment les sujets du budget et le sujet du timing, ce sont des enjeux qui finalement sont de la responsabilité du client. C'est le client a un problème qu'il décide de résoudre, sa responsabilité d'aller chercher le budget et le temps associé, c'est à lui que ça incombe de le faire. Ça veut donc dire que notamment sur le sujet du budget, c'est au commercial de challenger son client pour lui dire « Est-ce que vous avez bien identifié une enveloppe que vous êtes en mesure d'allouer pour régler le problème ?» Ouais. Et d'ailleurs, on voit donc bien là, en disant ça, que le budget n'est pas uniquement combien ça coûte, mais on est déjà un peu plus loin sur est-ce que le client, par rapport à ce que ça lui coûte, son problème, combien est-ce qu'il est prêt à y mettre pour le résoudre ? Donc on voit déjà qu'avec ces quatre éléments, le problème à résoudre, les personnes impliquées dans sa résolution, la notion de timing et la notion de budget, on voit déjà que ces quatre éléments-là vont nous permettre de scorer les opportunités qui sont mûres pour que le client passe en position d'achat versus les clients qui n'ont pas encore réuni toutes ces conditions.
Mais ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est il ne faut pas arriver, comme on le voit malheureusement souvent chez beaucoup de commerciaux, de but en blanc en allant suggérer une proposition. C'est le client finalement qui déclenche l'élément proposition.
Alors, c'est sûr que c'est encore plus puissant quand on a créé les conditions pour que ce soit le client qui demande la proposition. En fait, il va demander naturellement la proposition quand il aura pris la décision de résoudre son problème. Et c'est pour ça qu'en anglais, on entend souvent l'expression « to sell before proposal ». Qu'est-ce que ça implique ? C'est que le vrai sujet de la vente, il n'est pas une fois que la proposition est remise. Le vrai sujet, c'est que le client identifie son enjeu et décide de le résoudre. Le premier concurrent d'un commercial, ce n'est pas les autres concurrents, ce ne sont pas les confrères, c'est le client lui-même. C'est sa décision de faire ou de ne pas faire.
Ou de faire tout seul aussi, des fois.
Ou de faire tout seul, exactement. Et on voit donc bien, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que dans ces cas-là, remettre une proposition, ça n'a pas d'intérêt.
Ouais. Donc ça ne sert à rien de dire « et je vous ferai une proposition ». Pour avoir été longtemps dans la position de client, le client se sent un peu obligé de dire « bah oui, remettez-moi une proposition », même si je n'ai pas véritablement envie de prendre une décision de quoi que ce soit.
Oui, c'est-à-dire que la proposition, on a l'impression que c'est une sorte de routine, un rituel qui fait partie des codes de la vente et de l'achat. À un moment, ça doit se traduire par un devis, par une proposition. Alors, effectivement, la proposition ne fait pas acheter un client qui n'a pas décidé de résoudre son problème. Donc, ce que je peux recommander à des commerciaux qui se posent des questions sur leur taux de conversion, qui se posent la question de savoir finalement est-ce que leurs propositions sont de bonne qualité, il y a peut-être déjà une question à se poser. Reprenez l'ensemble de vos échanges, de vos découvertes, de vos opportunités et essayez d'abord de voir si finalement le client a bien décidé de résoudre son problème. D'ailleurs, quand le client vous demande une proposition, peut-être que la question à lui poser, ce serait de se dire « je voudrais juste valider avant, monsieur le client, est-ce que vous êtes en train de me dire que vous avez décidé de résoudre ce problème ?»
Oui, parce qu'on a déjà vu, on ne citera pas de nom, des entreprises faire des études de marché en demandant des propositions.
Alors, on peut servir de lièvre, on peut effectivement avoir ce syndrome de l'étude de marché gratuite déguisée que parfois on ne voit pas commercialement parce qu'on se dit « génial, il y a une opportunité, donc je vais faire travailler mes avant-ventes, je vais faire travailler mes équipes techniques, on va faire un boulot colossal d'analyse, de recherche, des déplacements, des évaluations sur site chez le client. On va pondre un document de 50 à 100 pages, bourré de bonnes informations, de matière grise, Et en fait, le client a gratuitement une étude de marché qui vaut peut-être 15 ou 20 000 euros. Voilà. Tout à fait.
Et dans le meilleur des cas, il envoie un mail pour dire non, merci, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai dit bien dans le meilleur des cas, parce qu'il y en a en plus qui n'envoient même pas le mail pour dire que ça ne m'intéresse pas.
Oui, donc pour compléter ça, on voit donc bien que ce qu'on est en train de dire, c'est que la fin d'une phase de qualification, qui n'est pas le sujet de la proposition, c'est le sujet plutôt de la traditionnelle découverte, la fin d'une phase de qualification, c'est donc bien une phase de disqualification.
Ouais.
C'est-à-dire que le commercial doit être en capacité de disqualifier les opportunités qui ne sont pas, dont les conditions ne sont pas réunies pour qu'on remette une proposition. Et ça, c'est aussi ce qu'on appelle dans le rapport d'équilibre une manière de garder un rapport de force, un rapport de partenariat équilibré avec son interlocuteur.
Alors, tu as cité aussi l'histoire du budget qui incombe au client lui-même et non pas au vendeur, bien sûr. Mais des fois, il y a des cas où le vendeur peut être aussi le créateur du budget, avec le client, bien entendu. Mais il est tellement force de proposition sur un problème que le client perçoit comme un vrai problème et sent qu'il y a une urgence à résoudre ce problème-là, que c'est lui qui va faire le VRP à l'intérieur de son entreprise pour aller chercher l'argent, et même, ça m'est déjà arrivé quand j'étais client, dans la poche du voisin, mais c'est encore mieux.
Alors si on va effectivement, on peut distinguer le type de vente plus transactionnelle, où on va être dans une logique quantité, prix, délai, on va produire du devis, et généralement on va considérer qu'à un moment les paniers moyens sont plus faibles, les volumes de devis sont plus élevés, et que là on est quasiment sur des éléments un peu statistiques où il y a plein de paramètres qui interviennent, et là on produit effectivement plus de devis parce que ces devis sont aussi automatisables.
Oui.
Si on prend le sujet de vente un peu plus complexe, où il va falloir aller chercher le budget, on sait notamment qu'effectivement le budget n'est pas toujours chez celui qui va utiliser la solution que vous allez vendre. Typiquement, on peut prendre le sujet, par exemple, d'une vente de CRM. Le budget peut être, par exemple, à la direction informatique, et l'usage est chez le directeur commercial. Donc, on voit bien avec cet exemple qu'il faut absolument être capable d'aller converser avec l'ensemble des parties prenantes. Parfois, on sait qu'on passe trop de temps avec des personnes qui n'ont pas l'argent, et le risque, évidemment, à la fin, c'est d'avoir raté un paramètre majeur. Après, il y a un sujet qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait émerger le sujet du budget sans amener le client à lui dire, à ce qu'il vous dise, bah, écoutez, dites-moi combien ça coûte. Il y a une phrase que j'aime bien, qui est la suivante, qui est de dire, écoutez, à ce stade de nos échanges, en général, j'ai les contacts avec lesquels je converse ont déjà une idée sur le budget qu'ils veulent allouer sur cette problématique-là. Voudriez-vous me faire part de votre niveau de réflexion sur cette problématique-là, quoi, sur ce sujet du budget ? Et de manière très intéressante, cette formulation extrêmement courtoise, extrêmement ronde, permet de faire émerger cette responsabilité qui incombe à l'acheteur, qui n'est pas sûr combien mon offre coûte, mais combien vous êtes prêt à mettre pour résoudre le problème.
Mmh.
Parce que si vous répondez à l'emporte-pièce, une fourchette haute à basse de votre propre prestation de service, un client qui n'a pas de référentiel peut d'ailleurs vous dire, écoutez, non, j'avais pas du tout imaginé ça, c'est extrêmement cher. Donc le problème de fixer le point de référence soi-même, ça peut parfois être délicat. L'interroger sur son niveau de maturité dans la recherche de son budget associé à sa problématique, si vous avez identifié que sa problématique coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, le faire réfléchir d'ailleurs, c'est la notion de ROI, c'est de comparer combien ça va coûter versus combien ça coûte de ne pas le résoudre.
Mmh.
Quelque chose qui coûte 500 000 euros et dont pour le résoudre il faut débourser 30 000 euros, en soi, c'est pas très choquant.
Mmh. Et alors, de ce que je crois comprendre de ce que tu dis également, c'est que ceux qui sont dans des situations de commodité, de vente de commodité, ou les fameuses propositions que tu peux produire automatiquement, comme tu dis, bon bah là c'est un peu perdu quoi en fait.
Alors, beaucoup plus difficile. Là on va être sur des sujets de ciblage très en amont. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive dès le début à savoir si on remet un devis ou pas. On va être sur des sujets de qualification. Mmh. Et puis après, d'extrêmement bonne connaissance de sa concurrence, extrêmement bonne connaissance de son offre, capacité à vraiment travailler sa proposition de valeur. Mmh. Donc effectivement, pour qu'associé à un prix, on ait vraiment une épaisseur pour que le client voit la différence. On peut, alors on peut, il y a un autre sujet qu'on peut aborder, hein, qui est effectivement le sujet des facteurs clés de succès, qui est de se dire quelles sont les règles à respecter dans la remise d'une proposition. Habituellement, on entend beaucoup de clients qui vont vous dire envoyez-moi une proposition. Et beaucoup de commerciaux envoient la proposition. Quand on envoie la proposition, on se retrouve dans un syndrome classique, hein, qui est le pas de son, pas d'image. On envoie la proposition le vendredi, et ensuite on passe dans cette maladie de la relance, où semaine après semaine, on essaye d'obtenir un feedback de la part du client. Alors, là-dessus, pour traiter ces symptômes, plusieurs règles. On est en bas de l'entonnoir, donc les volumes sont les plus faibles potentiellement dans la pipeline. Mmh. Donc, utiliser un canal qui est asynchrone, qui n'est pas interactif, qui n'est pas dans la co-construction, alors qu'on est au moment le plus important d'opportunités qui sont juste une étape avant la signature, et donc les plus proches de votre capacité à faire votre objectif, ben ça veut dire qu'on peut se poser la question de se dire pourquoi choisir un canal qui est le plus fragile possible, c'est-à-dire le mail, par rapport à des canaux qui facilitent l'interaction. Donc on a un sujet qu'on peut résumer en disant de règle générale, on ne devrait jamais envoyer une proposition par email. On a parfois les appels d'offres publics, privés, avec des dates limites de remise, et là on doit se soumettre, si on accepte de répondre d'ailleurs à nouveau, on peut considérer qu'on disqualifie le client parce que les conditions de chance, de succès ou de niveau d'intelligence chez le client ne sont pas suffisamment alignées, et donc on décide de ne pas répondre. Quand on a des appels d'offres auxquels on décide de répondre, effectivement là on est obligé de remettre une proposition en temps et en heure et de l'envoyer. Et de se soumettre ensuite éventuellement à des questions-réponses ou à une session d'animation de soutenance. Dans tous les cas où on est sur des consultations, on va dire vraiment proprement privées, tant qu'on n'a pas envoyé la proposition, on garde une monnaie d'échange. Qu'est-ce qu'on doit en faire ? C'est qu'on doit obtenir le plus possible une réunion de travail synchrone, que ce soit en visio ou dans le bureau du client, et avec toutes les parties prenantes. Donc plus c'est complexe, plus les budgets sont à fort enjeu, plus l'impact pour le client est important, plus on se rapproche des C-level, des niveaux de direction dans l'achat du produit, plus on doit favoriser la tenue d'une réunion de travail qui va permettre de co-construire la suite des échanges. Ce qui est important, c'est que la proposition, c'est souvent considéré comme étant la fin de la relation commerciale avant le go-no-go. Plus on est sur des projets complexes, plus en fait cette phase-là, c'est plutôt le début de la collaboration, puisque c'est ce qui va précéder potentiellement le go, puis la réunion des équipes projet et la mise en œuvre chez le client. Donc il faut plutôt aller vers une logique qui favorise le plus possible la co-construction. Je rappelle en même temps que vendre, c'est faire un effort à son client. Lui demander une réunion synchrone, c'est un bon moyen de tester son effort à considérer notre proposition ou à servir de lièvre.
C'est sûr que s'il commence par dire « ben non, j'ai pas envie de vous parler », ça commence mal.
C'est un bon indicateur. Alors souvent qu'on n'entend pas ou qu'on ne veut pas entendre, parce que voilà, on a envie de toujours croire à toutes les affaires. Ce qui est amusant avec les propositions commerciales, c'est qu'on a souvent quand même le syndrome répété de l'amoureux éconduit qui ne prend pas la leçon des derniers échecs et qui ne se dit pas à un moment « combien de propositions j'ai remises et qui finalement ne donne rien. À un moment, reprendre le contrôle de son drive commercial, c'est être capable de choisir les gens à qui on va vraiment formaliser une proposition, parce que à nouveau on peut reposer la question: est-ce que vous avez bien décidé de régler le problème qu'on a identifié ensemble?
Comme on dit dans le métier, le client est roi mais le vendeur est son prince.
Exactement. Et la relation doit rester effectivement équilibrée. Le travail du commercial n'est pas gratuit. Et en plus, mais ça les commerciaux qui nous écoutent le savent, et les managers commerciaux qui accompagnent les équipes le savent, on est payé quand on a facturé et pas quand on remet une proposition. Ouais. Donc la remettre des propositions ne permet pas de payer les factures, ne permet pas d'encaisser du chiffre d'affaires. Donc il faut bien retenir que remettre une proposition, c'est trop souvent jouer pour participer, alors que, comme la vente, c'est un sport dans lequel il n'y a pas de médaille pour le second, le sujet, c'est pas tant de participer, désolé Coubertin, c'est plutôt de gagner.
Ouais. Et d'ailleurs, dans ce que tu dis, c'est important, tu dis qu'on est payé quand on a encaissé, et non pas seulement quand on a vendu, ce qui n'est pas, c'est pas exactement la même chose.
Oui. Et encore moins quand on a remis la proposition.
Ah bon, donc, ça va de soi.
Donc la proposition, la proposition en fait, c'est vrai que du côté du client, c'est rassurant. Ça formalise un échange. Ça obéit aussi à des rituels achats qui est de se dire, j'ai pris de l'information. Valider que les conditions sont réunies, c'est de se dire combien de mes propositions ne vont que simplement servir à faire du benchmark, à alimenter gratuitement mon prospect d'informations chèrement acquises, faire le lièvre pour un autre confrère, peut-être simplement répondre. En fait, alors, beaucoup de personnes me disent « Oui, mais si on ne remet pas de proposition, est-ce qu'on n'envoie pas un mauvais signal ? Et est-ce que ce n'est pas une forme d'arrogance ?» Évidemment, la courtoisie est de règle. On pourrait simplifier en disant ni hérisson ni paillasson. Il faut savoir expliquer pourquoi on ne remet pas une proposition et dire écoutez, à ce stade, je crois que votre projet n'a pas encore la maturité nécessaire pour que vous décidiez de le régler. Je vous propose c'est qu'on garde contact, qu'on continue à converser, mais c'est en tout cas pas la proposition qui va faire basculer vers l'achat.
C'est plus difficile de dire à un client non, j'ai pas trop envie de servir de lièvre.
C'est ça. On peut pas. Tout à fait. Non, ça c'est délicat.
Donc là, il vaut mieux taper en touche.
Il faut mieux botter en touche, ouais. Il faut mieux botter en touche, tout à fait. Et en fait, en plus, on a des canaux marketing qui nous permettent de continuer à suivre le parcours achat du client, de voir s'il continue d'aller sur le site internet, s'il continue d'accéder à de la ressource et du contenu, s'il continue d'interagir avec l'ensemble de l'entreprise. Donc, en fait, on a d'autres moyens de pouvoir s'assurer de sa volonté réelle. Et puis à nouveau, on parle souvent ensemble, un client, c'est avant tout des interlocuteurs humains qui ont des rôles, et donc un client n'est pas représenté par une personne qu'on a rencontrée. Si c'est une vente complexe, on a mécaniquement échangé avec, je crois qu'il y a des statistiques LinkedIn qui disent que le nombre de personnes impliquées dans une décision en B2B, tu me dis si je me trompe, mais c'est 5 ou 6 personnes.
Un truc dans le genre.
Voilà.
Après, ça va de zéro à l'infini, parce que si c'est une affaire d'outsourcing sur 1 milliard d'euros, c'est plutôt 100 à 150 personnes.
C'est ça, exactement.
Alors après, il y a toujours 3 ou 4 décideurs, hein, pas plus, mais
oui.
Mais il y en a quand même 95 derrière qui donnent leur avis.
Bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, parce que c'est souvent des sujets sur lesquels on nous challenge, mais est-ce que finalement, décider d'en remettre une proposition, ça ne devient pas quelque part quasiment des goûts et des couleurs ? Et on voit beaucoup d'équipes commerciales dans lesquelles la manière de décider de remettre la proposition est quasiment une logique individuelle d'appréciation sur des critères subjectifs. Nous là-dessus, on encourage vraiment les directeurs commerciaux, les équipes qui sont dans les sujets de proposition à construire une petite grille de scoring avec 5-6 critères. Ça peut être ceux qu'on a évoqués tout à l'heure en début d'échange. On met 5 points par critère et on évalue par exemple 5 critères, 5 points, 25 points. On évalue de 0 à 25 points le nombre de points que le client a pour recevoir une proposition. On peut dire en dessous de 20 points, on ne remet pas une proposition. Ça peut être un outil commun qui permet de passer d'une approche subjective à une approche objective et qui facilite, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais l'analyse de la pipeline avec son N+1.
On le voit, véritablement, il y a une nécessité d'équilibrer les discours, d'équilibrer les rapports de force en fait, entre le vendeur et l'acheteur. Et là, je suis complètement en phase avec toi, bien entendu. J'ai eu souvent des interlocuteurs, notamment les fameux bourrins sur LinkedIn, ceux qu'on aime, ceux qui envoient 3000 messages pour avoir un rendez-vous et qui sont très contents de leur performance, qui me disent, enfin là j'exagère un peu parce qu'il y en a qui n'en envoient pas tant que ça et qu'au contraire, ils aimeraient bien en envoyer tant que ça. Mais il y en a pas mal quand même qui rament sur le terrain et il faut le reconnaître, c'est pas simple, hein, la vente c'est quand même dur. C'est un métier difficile et tout le monde me dit oui mais toi c'est différent, t'es connu. Alors, ce qui est sûr, c'est comme dirait Philippe de Liège, c'est plus facile de vendre quand on est connu que quand on n'est pas connu. Mais même, Quel conseil peux-tu donner aux commerciaux, peut-être les commerciaux peut-être un peu plus juniors, un peu plus débutants, on est tous passés par là, avant qu'on puisse tenir tête à un client et lui dire « Mais non, monsieur, votre affaire de 2 millions d'euros, ça vaut pas tripette. » Il faut avoir un certain cran quand même pour dire ça. Il faut avoir de l'aplomb. Et puis, il faut être capable d'avoir 2 millions derrière pour pouvoir compenser. Le débutant, lui, il est un peu démuni par rapport à tout ça. Comment peux-tu le conseiller pour tenir le coup et savoir renverser la vapeur ?
Alors, ma vision un peu globale déjà de la démarche commerciale, intrinsèquement, il y a les commerciaux, il y a aussi les rôles qu'on leur attribue. Il y a peut-être aussi une partie de la réponse qui est dans le fait de se dire comment est-ce que je mets mes joueurs face au bon match. Est-ce qu'on doit avoir des juniors face à des enjeux commerciaux et de chiffre d'affaires et de marge importants pour l'entreprise? Quand on est junior, on peut se poser la question, et donc il y a peut-être des logiques progressives à avoir. Mettre un junior dans une situation de jeu qui est extrêmement exigeante, je ne suis pas certain que ça dénote la bonne organisation commerciale. Donc là, on a un premier sujet. Après, je sais évidemment qu'on peut avoir, je pense à toutes les PME où vous allez avoir entre 1 et 10 commerciaux. Vous avez un commercial qui va prendre chacun 10 départements. Vous n'allez pas pouvoir avoir un grand compte, ce n'est pas toujours possible, pour chaque secteur. Et donc, vous avez des commerciaux qui prennent ses fonctions, qui récupèrent un secteur de 10 départements, et ils se retrouvent face à un grand compte, ou en tout cas à un enjeu de forte négo, donc pas simple. Alors, je vais répondre, j'ai pas de recette magique. Si on joue un match pour lequel on n'est pas équipé, que ce soit en vente ou dans n'importe quelle autre activité, on peut pas faire de miracle. Donc, je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, mais parce que j'y crois fondamentalement, c'est que les meilleurs, pour devenir meilleurs, se sont fait coacher, et les meilleurs se font coacher quand ils sont déjà meilleurs. Donc il y a un sujet, et en France on a un boulevard sur ces sujets-là. On a plein d'études qui démontrent qu'un commercial sur deux pense qu'il n'est pas coaché. Donc quand on doit préparer un match critique, on doit avoir une session de préparation avec son manager pour penser la manière dont va se dérouler le match. Quel que soit son niveau dans l'absolu, on doit en tout cas avoir un travail de préparation qui peut même quasiment être le double du temps réel de match. Je rappellerai juste que les sportifs de haut niveau, c'est 90% du temps en entraînement, 10% en match. Donc on voit bien que la haute performance ne vient pas d'avoir des temps de match pendant lesquels on s'entraîne. Donc le pire, c'était un peu le sens de ta question, c'est que si on se retrouve dans un match face à un géant, alors qu'on ne s'est pas préparé et qu'on utilise des matchs pour s'améliorer, ben on va mettre 10 ans. Donc il y a un premier sujet, c'est se faire coacher, avoir une séance de préparation importante avec son manager, et un moment peut-être dans l'intérêt de l'entreprise, ben peut-être que ces premiers matchs importants, il faut que le manager puisse assister à l'échange. Ou peut-être qu'un collègue peut venir se déplacer, un collège, on croit beaucoup chez Questio à la notion de compagnonnage, c'est qu'un collègue peut venir se déplacer pour assister au rendez-vous et aider. Donc si intrinsèquement on se dit qu'on ne peut pas acquérir une compétence en quelques matchs, ce qui est juste intrinsèque de toute activité humaine, ben, à un moment il faut bien pouvoir essayer de limiter les défaillances ou les difficultés en se faisant accompagner.
Oui, j'ai vécu cette période, si je peux parler un peu de mon expérience, parce que j'ai vendu des appareils électroménagers à l'époque où ça se faisait encore en B2B. Et je me suis retrouvé, alors que j'étais dans le secteur le plus pauvre de France, l'Aisne, plus faible indice de richesse vive de tout le pays, je me suis retrouvé face au premier grossiste de France. Premier grossiste qui livrait en plus tous les hypermarchés, il était absolument gigantesque, c'était le plus gros client qu'on avait en fait. Et moi j'étais complètement débordé. Alors heureusement, je me suis pas mal fait coacher avec des gens remarquables d'ailleurs. Là où j'ai un petit regret, enfin c'est pas un reproche, c'est peut-être qu'il aurait fallu faire ça avant effectivement les rendez-vous clients, et mieux préparer avant les rendez-vous clients, mais j'étais peut-être pas non plus très très mûr pour ça. Mais c'est vrai que se faire coacher pendant la vente, ça évite de faire des bêtises. mais c'est pas forcément là qu'on apprend le plus, quoi. Il faut réviser avant, il faut se préparer avant pour soi-même devenir meilleur, parce que c'est très difficile, hein, je me souviens qu'on était dans des négociations où moi j'étais peut-être capable de pousser 50, 100 produits, et il fallait en pousser 5 à 6 000, et c'est des wagons, quoi, des wagons de produits, quoi. C'est quand même très 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 dur, et plus dans des délais très courts, avec des techniques de hard selling sur à une époque peut-être où c'était moins dur, mais où on faisait 80% de notre chiffre d'affaires dans les deux dernières heures du mois, et le chiffre d'affaires se remettait à zéro tous les mois. C'est excessivement stressant, quoi. Pour apprendre dans des conditions comme ça, c'est très difficile.
Ben, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment le rôle de la direction commerciale de créer les conditions de choix des modalités de jeu de ces équipes. Mm-hmm. C'est pas, j'ai un secteur, quelqu'un est parti, je remplace, good luck. Mm. Ça pouvait peut-être marcher quand éventuellement il y avait des taux de croissance généraux qui étaient plus élevés, quand il y avait peut-être un peu moins de compétition. On pouvait se permettre d'avoir quelques pertes au combat.
Ouais, ouais.
Aujourd'hui, quand chaque deal, les clients sont devenus plus volatiles, plus exigeants, plus infidèles, ils vont facilement vous mettre en concurrence alors que vous avez pourtant fait un excellent travail. Donc on voit bien que les clients n'étant pas ennemis de leurs intérêts, ils vont évidemment vous challenger bien davantage peut-être qu'il y a 10, 15 ans. Et donc ça nécessite pour les organisations commerciales de créer les conditions pour que leurs équipes puissent réussir. Dans n'importe quelle équipe de sport, vous avez un entraîneur, vous avez un préparateur mental, vous avez un coach, vous avez un capitaine, vous avez un nombre de ressources pour faire gagner l'équipe, alors qu'on est encore dans beaucoup d'entreprises, dans une vision où le commercial est une sorte de loup solitaire qui fait sa réussite tout seul, d'une cage à l'autre, il pousse son ballon et il doit tout réussir tout seul. Mais au regard de la complexité des batailles à livrer, quand on regarde le sport de haut niveau, les conditions pour y arriver, et si on se dit que les ventes sont un sport de haut niveau, ben quelque part, on a une sorte d'asymétrie de moyens qui saute aux yeux.
Oui, mais quelque part, le mode de rémunération du commercial est un peu en jeu aussi par rapport à ça, parce que quand on est rémunéré individuellement, c'est plus difficile. Alors, ce qui marchait bien chez Philips à l'époque, c'est que la rémunération elle était sur l'équipe. C'était l'équipe qui était rémunérée. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu bénéficier de conseils de vendeurs chevronnés. Je m'en souviens encore 35 ans après. Tellement c'était remarquable, quoi. Des gens vraiment d'un très haut niveau. Hein, c'est des choses qui vous marquent toute une vie. Hein,
c'est vrai qu'on a beaucoup de modèles sur des succès individuels. Et on se dit, génial, j'aimerais cloner mon meilleur commercial. Alors, la réalité dans un monde complexe, c'est qu'il faut mieux une équipe qui collectivement a peut-être un résultat avec un peu moins d'écart type entre le meilleur et le moins performant, mais où collectivement il y a une logique de réussite, il y a une logique de soutien, de partage des bonnes pratiques, parce que à nouveau il faut mieux avoir 60-70% qui sont en capacité de réussir plutôt que quelques zidanes dans votre équipe, parce que le jour où ils partent, le jour où ils évoluent, ils ont une promotion, le jour où ils deviennent manager peut-être de l'équipe, ben en fait, vous perdez votre meilleur joueur. Donc, on a un sujet qui est de se dire comment, bien sûr qu'on peut aller favoriser la performance pour qu'il y ait quelqu'un qui montre le chemin, mais ça ne doit pas se faire en opposition d'une réussite collective, et parce que les environnements, et on n'a pas besoin en ce moment de donner beaucoup d'exemples, l'environnement est complexe, les paramètres de jeu peuvent changer soudainement, c'est pas en se reposant sur une performance individuelle qu'on va favoriser la performance de l'entreprise au global. Et à nouveau, les commerciaux sont responsables de leur chiffre d'affaires, mais c'est une responsabilité qui les dépasse. Tout ce qu'on vient de dire sur le sujet de la proposition, c'est pas uniquement je peux choisir de manière autonome comment je fais. C'est que une proposition ratée, c'est certes des commissions ratées pour le commercial, et ils travaillent dur, et c'est vraiment tant qu'on n'a pas fait ce métier-là, on peut difficilement imaginer combien c'est un des métiers les plus difficiles au monde. C'est loin de certaines images d'Épinal. C'est un métier extrêmement complet, extrêmement exigeant, qui est extrêmement difficile finalement à opérer. Et vraiment, les commerciaux sont vraiment des gens extrêmement courageux, parce que c'est un métier où plus d'une fois, vous avez envie de lâcher prise. Mais par contre, on doit aller vers cette logique de réussite collective, parce que demain, l'environnement est tellement complexe qu'il faut avoir un esprit d'équipe.
C'est une formidable école de la résistance au stress, hein, d'ailleurs. Mmh. Quand on a passé ce cap-là, on est capable de passer beaucoup de choses. Et une chose dont on n'a pas parlé, peut-être pour conclure, c'est la proposition elle-même. On n'a pas décrit ce qu'il y avait dedans.
C'est vrai.
Y a certainement des points de vigilance dans cette proposition. Peut-être qu'on ne commence pas par dire « ça va vous coûter 100 000 euros ».
Non, alors ce qui est important, c'est qu'on est tous pareils. La première chose qui nous intéresse, c'est les choses qui nous préoccupent. Donc, on dit souvent que le niveau d'attention d'une personne, d'un humain, c'est quelques minutes. Hein. On est déjà en plus tous très mobilisés par des milliers de messages. On reçoit plus de 2000 messages quotidiennement. Donc, comment obtenir l'attention rapidement d'un interlocuteur? Sous réserve qu'on ait bien évidemment cette réunion de travail de manière synchrone. Et quand bien même vous auriez dû envoyer votre proposition par email, il faut démarrer par ce qui préoccupe le client. Donc il faut partir de lui et il faut que dans les 3-4 premières pages du document, PowerPoint, Word, quel que soit le format, vous ayez resynthétisé les enjeux du client. Il y a des statistiques là-dessus hyper intéressantes, notamment c'est une étude de McKinsey qui est de 2018 ou 2019, où ils interviewent plusieurs milliers d'acheteurs aux États-Unis et on leur demande ce qu'ils pensent des propositions commerciales, et ils répondent 80% des commerciaux n'ont pas compris nos enjeux. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas nos enjeux dans la proposition. Donc si dès le début de la proposition les gens ne se retrouvent pas dans leurs problématiques, bah évidemment, si vous avez le sentiment de devoir acheter quelque chose et que la personne qui va vous vendre en face la solution n'a déjà pas compris ce que vous voulez régler, il y a peu de chances qu'elle aille jusqu'au bout du processus achat. Mmh. Donc on a un premier sujet, c'est que première partie du document, ça doit être de montrer sa capacité à avoir, indépendamment de son offre, compris les enjeux du client et ce qu'il veut aller chercher. Donc ça doit être déjà extrêmement clair, évident, et ça doit donner lieu encore à un échange éventuellement quand on est en réunion de travail. Ensuite, on aura une phase de recommandation qui va consister à pouvoir donner de la matière sur les solutions qu'on peut apporter, les décrire, les expliquer, les détailler de manière précise, de raconter des histoires d'autres clients qu'on a connus. Donc on a un deuxième tiers où on est un peu plus centré sur notre offre, mais une offre évidemment profondément reliée aux enjeux du client. Et puis on va avoir une troisième partie du document qui doit absolument sortir de l'écueil du oui-non. Parce que quand vous emmenez quelqu'un, un être humain, à prendre une décision et à la formaliser sous un format de oui-non, en logique de risque, et on le voit sur toutes les études de comportement psychologique en investissement financier, l'aversion au risque est le principal moteur de la décision. Donc si vous mettez quelqu'un dans une situation de dire oui ou non, par sécurité, il a tout intérêt à dire non. Donc ça veut dire que cette troisième étape qui serait de demander un feedback, un avis, le vrai sujet, c'est pas de demander est-ce qu'on a bien répondu, est-ce que notre offre vous convient. Le vrai sujet, c'est comment on avance, quelles sont les prochaines étapes, quelles sont les personnes qui vont être impliquées, à quelle échéance on pourrait mettre en place telle réunion de travail. C'est de continuer à engager la relation plutôt que de vouloir la faire aboutir dans un modèle à deux options. Ou en général, c'est pas 50-50, c'est plutôt 80% non, 20% oui. Il faut sortir de ce modèle-là qui crée peu de valeur et plutôt commencer à mettre les passerelles entre les deux organisations, humainement, en termes de timing, en termes de personnes impliquées, en termes de priorisation des chantiers. Et donc là, on a tout un spectre de thématiques qu'on peut ouvrir pour projeter le client dans de la mise en œuvre plutôt que de le projeter dans une logique de décision. La logique de décision, elle est d'une part défavorable même pour le client, parce qu'elle va le centrer dans des peurs analytiques, et le commercial va se retrouver dans une forme de corner où il n'aura plus qu'à attendre que les jeux soient faits.
Eh bien, merci Dominique. Il ne nous reste plus qu'à écrire une proposition si le client nous le demande.
Tout à fait. Merci à toi Yann.
écoutez bien les podcasts de Sparklane sur le blog Sales and Marketing Insiders, le blog d'information sur la vente en B2B.